Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée par Rosalie Suc, mais aussi Margot Léridon, Bertille Bourdon, Lucas Lazo et Nicolas Sendé, réalisée par Alexandra Longuet, à la technique ce matin, Cindy Le Grumelec. Nouvelle série consacrée au monde du sport cette semaine. Entre championnats perturbés, report des grands événements sportifs et effondrement des recettes, la compétition sportive n'aura pas été épargnée par la pandémie de Covid-19, d'autant que le milieu est sous le feu des critiques depuis quelques années pour plusieurs problèmes. Scandales financiers, mauvaise gouvernance, discrimination, sport international, des modèles à bout de souffle. Eh bien, c'est notre série toute cette semaine. Et demain, mardi, il sera question des clubs de foot européens en plein marasme économique. Mercredi, nous parlerons du racisme dans le sport et de l'engagement des athlètes. Enfin jeudi, nous évoquerons la libération de la parole sur les violences sexuelles et du changement de regard sur le sport féminin. Mais pour commencer, place aux reines des compétitions sportives, Jeux Olympiques et Coupe du Monde, des grands-messes menacées.
J'ai proposé de les reporter d'environ un an. Et le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a accepté à 100%. Nous sommes aussi tombés d'accord sur le fait que nous organiserons les Jeux olympiques et paralympiques à l'été 2021, au plus tard.
Concernant le budget Tokyo 2020, nous avons demandé un financement supplémentaire à nos partenaires et nous disposons également d'une assurance. Le coût de Tokyo est le coût de Tokyo. Le Comité international olympique est impliqué dans diverses activités à travers le monde et ils ont des comptes à rendre à ces organisations. C'est pourquoi nous avons accepté de ne pas l'impliquer.
Tout le Japon attendait les Jeux. On est vraiment très déçus.
C'est tout à fait normal qu'on les reporte. Vu l'épidémie dans le reste du monde et tous ces athlètes qui n'étaient pas prêts, c'est la meilleure solution.
La ville de Tokyo, organisatrice des Jeux d'été 2020 reportés à 2021 pour cause de pandémie, est en phase de perdre son soutien le plus précieux, celui de sa population. Selon un sondage révélé mi-décembre, il ne serait plus que 27% dans l'archipel à souhaiter le maintien de l'événement, tandis que plus de 30% se prononcent déjà pour une annulation. Il faut dire que le report de la compétition a déjà entraîné un surcoût de plus de 2 milliards d'euros, portant à 13 milliards le budget total. Mais pas d'annulation à l'ordre du jour pour Toshiro Muto, le directeur du comité d'organisation, qui a plaidé la semaine dernière pour voir ses dépenses, je cite, comme des investissements positifs. Et de fait, comment renoncer à cette formidable vitrine que sont les Jeux Olympiques, au prestige culturel, diplomatique, économique, assuré ou du moins escompté par l'organisation de l'événement? Les perturbations engendrées par la crise sanitaire nous rappellent à quel point les grandes compétitions sportives internationales sont des paris risqués. D'autant que les attentes du public ont bien changé ces dernières années. Le spectacle de la compétition et la beauté de l'exploit ne suffisent plus à masquer les nombreuses dérives des méga événements sportifs. Dérapage des budgets, impact néfaste sur l'environnement, soupçons de corruption ou encore scandale de dopage. Si les spectateurs sont toujours au rendez-vous, les compétitions semblent avoir perdu de leur magie fédératrice. Les grands événements sportifs, alors, sont-ils désormais inadaptés aux nouvelles préoccupations sociales et environnementales des opinions publiques? Quelles sont leurs marges de manœuvre pour s'adapter? Le 21e siècle verra-t-il la fin des grands messes olympiques et footballistiques? Deux invités ce matin pour discuter de toutes ces questions. Jean-Loup Chapelet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lausanne, spécialisée en management du sport et des Jeux Olympiques. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin à distance. Et à vos côtés, Pim Verskuren, également à distance. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur également à l'Université de Lausanne. Je cite l'un de vos récents articles co-signé avec Carole Gomez. « Changer ou être changé, les organisations sportives internationales face à une transition forcée ». C'était paru dans la Revue internationale et stratégique en 2019. On pourra trouver toutes les références sur notre site. Je vous propose donc de commencer par Tokyo, évidemment. Tokyo qui a déjà annoncé un surcoût donc de 2,3 milliards. de son budget à cause du report et des mesures sanitaires. Est-ce que les prévisions, ces prévisions annoncées de surcoût vous semblent réalistes quand on sait que généralement les budgets des JO sont systématiquement dépassés? Pim Verskuren.
Oui, effectivement, ce n'est pas une surprise qu'il y ait un dépassement puisque ça arrive dans beaucoup d'Olympiades. C'est vrai que ces projets que sont les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde sont extrêmement complexes à organiser, à mettre en œuvre. Et puis entre le moment où on décide de candidater à leur accueil et puis la tenue, il se passe 10 ans où il peut y avoir des évolutions en termes de sécurité, en termes là de contexte sanitaire par exemple, des évolutions logistiques. Et donc il faut pouvoir s'adapter et bien sûr ça engendre souvent des surcoûts. Donc c'est pas une décision étonnante, surtout au regard de la pandémie actuelle qui oblige les organisateurs à Tokyo, mais aussi le Comité Olympique International à s'adapter aux nouvelles conditions d'activité sportive, mais aussi d'accueil des spectateurs et des officiels.
Jean-Louis Chaplet, avec un budget de 13 milliards, ce qui est assez conséquent. Alors c'est pas un record, hein, mais c'est quand même assez conséquent en regard d'autres JO d'été. Est-ce que la ville de Tokyo vous paraît actuellement dans un budget encore maîtrisable?
Oui, je pense, parce que de toute façon, inévitablement, la prolongation d'un an finalement entraîne des coûts supplémentaires, ne serait-ce que pour payer les collaborateurs du comité d'organisation, les mesures sanitaires, la location supplémentaire des installations sportives et aussi du village olympique. Mais il faut savoir que dans ces budgets olympiques, qui sont certes importants, il y a 40% pour l'organisation environ et 60% pour les investissements, les constructions. Et c'est vrai qu'à Tokyo, ils ont beaucoup construit de magnifiques installations, tout comme celles de 1964 d'ailleurs, qui sont toujours utilisées. Et par exemple, à Paris, ils ont décidé de beaucoup moins construire. Donc le budget d'investissement sera beaucoup plus faible. Et on sait que c'est souvent dans les investissements, dans les constructions, qu'il peut y avoir des dépassements classiques dans d'autres constructions. Hein. On le voit régulièrement, barrages, des maisons, etc., dépassent les budgets, tout simplement parce qu'il y a un mauvais suivi de ces budgets. Donc en supprimant ou en réduisant à l'extrême les constructions et les investissements, les budgets des Jeux Olympiques, c'est-à-dire les budgets d'organisation proprement dit, opérationnels, seront beaucoup mieux maîtrisés dans le futur, je pense.
Alors là, dans le cas de Tokyo, on n'est pas sur une mauvaise gestion ou un mauvais suivi des budgets, puisqu'évidemment, cette pandémie, personne ne pouvait la prévoir et que la ville de Tokyo n'en est pas responsable. Il se pose néanmoins la question de savoir qui va payer le surcoût annoncé. Est-ce que c'est le CIO? Est-ce que ce sont les sponsors? Est-ce que ce sont à terme les contribuables japonais? Est-ce qu'on a déjà une idée de qui va payer la facture de ce report? Jean-Louis Chaplet.
Alors essentiellement ce sont les Japonais. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de salaire du comité d'organisation, de location et de mesures sanitaires. Par contre, les sponsors domestiques japonais donc ont accepté de contribuer un petit peu plus pour l'année supplémentaire qu'ils auront d'utiliser leur sponsoring. Ça reste des sommes finalement modestes par rapport à l'ensemble du budget. On parle de 200-300 millions de dollars. Donc c'est clair que ces coûts seront essentiellement supportés par les partenaires japonais. Par contre, le CIO prendra à sa charge tous ses propres frais d'hébergement, etc., qui ont été annulés en 2020, qui seront reproduits finalement en 2021 avec les assurances qu'il peut avoir pour ces différents frais. Qu'il aura lui-même ayant prolongé les contrats de sponsoring de ses partenaires principaux, ses partenaires internationaux de sponsoring, les partenaires top, comme on les appelle.
Alors, est-ce qu'il faut faire un lien entre la perspective de ce surcoût qui, vous le dites, sera quand même en grande partie supporté par les contribuables japonais et la perte de soutien populaire pour ces JO? Je citais des sondages en introduction qui disent que voilà, environ 30% des Japonais sont quand même plus pour une annulation que la tenue en 2021 ou bien même encore un autre report. Pim Verskuren, est-ce que vous voyez là un lien entre le surcoût et puis cette perte de soutien populaire au Japon?
Oui, même si le surcoût, comme je le disais, n'est pas vraiment une surprise, hein, on s'y attendait et puis ça fait déjà plusieurs années que le budget de Tokyo 2020 dépasser les limites initiales. Je crois aussi que le contexte de la pandémie, qui crée une crise économique, sanitaire, une crise sociale, culturelle très forte dans tous les pays qui sont touchés, et donc dans le monde entier, bah finalement met un peu la population en décalage avec cette fête universelle que représentent les Jeux Olympiques. Finalement, bah voilà, dans le contexte où tout le monde se serre la ceinture, où on doit fermer plein d'institutions, est-ce que c'est vraiment adéquat d'organiser une sorte de voilà de bulle olympique universelle, une sorte de fête à Tokyo, enfin sur les sites olympiques au Japon et à Tokyo, alors que voilà toute la société fait des efforts et des sacrifices. Je crois que c'est aussi ce décalage qui crée un peu un désamour de la part de la population plus que le surcoût.
Mais de manière générale, est-ce qu'il est possible pour une ville, pour un territoire, d'organiser des Jeux sans le soutien de ses habitants?
Bah écoutez, il y a beaucoup de Jeux Olympiques et des grands événements sportifs ou des événements sportifs moyens qui sont organisés et payés par des États dans des sociétés où l'expression politique n'est pas forcément ouverte. Et donc, je crois qu'il y a eu beaucoup de situations, effectivement, où les sociétés, les populations locales n'avaient pas leur mot à dire sur la tenue de ces événements sportifs. Et c'est peut-être aussi une différence avec les sociétés dites occidentales, où vous allez avoir des mouvements de contestation relativement plus développés que dans d'autres pays comme la Russie, la Chine, où ces dernières années, il y a eu beaucoup d'événements sportifs organisés, et où finalement, bah, il n'y a pas eu de référendum, comme dans d'autres pays occidentaux, et où on n'a pas eu ces mouvements de contestation contre les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde.
Alors, s'il y a une colère sociale qui a marqué les esprits ces dernières années, c'est au Brésil. On s'en souvient, après les JO de Rio 2016 et la Coupe du Monde Brésil 2018. Souvenez-vous, écoutez.
Montrez bien ça au monde. Le Brésil a souffert à cause du Mondial de foot et des Jeux Olympiques. Beaucoup de souffrance et beaucoup de larmes. Il faut que le monde le sache. Notre plus gros défi aujourd'hui, c'est d'attirer la population vers l'héritage olympique, de montrer que nous organisons des événements ici et que nous avons les moyens d'accueillir la population et aussi les entraînements d'athlètes.
Jean-Louis Chaplet, on se souvient donc en 2016, en 2018, de la colère de la population brésilienne qui voyait un énorme décalage entre l'ampleur des investissements faits pour la construction des stades et de l'infrastructure, et puis à côté de ça, un système de transport, un système social complètement défaillant, notamment dans la ville de Rio. Depuis, ces JO ont souvent été montrés en contre-exemple, comme on l'entendait aussi un peu dans ces témoignages. Quelques années après, quel bilan on tire de ces JO et de cette Coupe du Monde au Brésil?
Bon, c'est un bilan qui est difficile à tirer parce que les comptes n'ont pas été publiés, ils seront publiés peut-être prochainement, mais c'est sûr que les Jeux Olympiques à Rio en 2016, peut-être la Coupe du Monde en 2014 aussi, sont tombés très très mal. Quand les Jeux ont été attribués en 2009, l'économie brésilienne boomait, et en 2016, par contre, elle était en très forte récession. Ceci dit, il faut mettre tous ces coûts en perspective. Par exemple, pour Tokyo, pour revenir à Tokyo, on parle de 13 milliards d'euros. Et vous savez, par exemple, que le plan de relance de l'économie européenne, c'est de l'ordre de 750 millions d'euros. Donc, vous voyez que les Jeux et les grands événements en général coûtent cher, bien sûr, mais proportionnellement, même si ce sont des sommes très importantes, c'est relativement faible par rapport à d'autres budgets qui peuvent exister par ailleurs.
Pim Verskuren, vous sur Rio?
Oui, c'est vrai que, enfin, je suis d'accord avec ce que dit Monsieur Chaplet, bien sûr. Et après, il y a aussi eu des enquêtes pénales qui ont été menées au Brésil et qui sont encore en cours sur des affaires de corruption. Et je crois que c'est à l'image aussi de la lutte contre la corruption que l'on a au Brésil dans les cercles politiques ou industriels au-delà du sport. Je crois que ces Jeux Olympiques et cette Coupe du Monde ont aussi été malheureusement l'objet de malversations qui sont ensuite tombées dans la presse et dans les enquêtes. Donc c'est vrai que ça entache l'image et l'héritage de ces grands événements sportifs, parce qu'il y en a qui, il y a eu des intérêts individuels qui en ont profité aux dépens là aussi des intérêts peut-être de la société brésilienne qui finalement
Pour Rio,
Jean-Louis Chaplet, je vous en prie.
Excusez-moi, beaucoup trop construit à Rio. Ils ont quasiment tout construit. C'est parce qu'ils en avaient besoin, peut-être aussi, mais ils ont refait le métro, ils ont refait le port, ils ont refait la ville, grosso modo. Et toutes ces installations sportives qui, bien sûr, n'ont peut-être pas l'utilisation qu'elles devraient avoir. Donc, c'est pour ça qu'il vaut beaucoup mieux organiser les Jeux Olympiques dans des régions et des territoires qui ont déjà beaucoup d'installations sportives. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait à Paris, par exemple, où il a été décidé de ne pas construire une piscine spéciale pour la natation, mais d'utiliser une piscine existante.
Et pourtant, Jean-Louis Chaplet, pendant des années, on a dit les Jeux Olympiques sont l'occasion de moderniser des axes de transport, de construire des nouvelles lignes de métro qui vont ensuite servir durablement à la population. On emploie même parfois le terme de JO bâtisseur. Est-ce que ça veut dire que cette période-là est révolue et qu'aujourd'hui, hein, une ville ne peut plus se permettre de profiter de la manne des JO pour rénover ses infrastructures? Ça ne fonctionne pas, c'est ça qu'il faut en déduire.
En tout cas, dans nos pays, oui, cette période est terminée. C'était le cas à Tokyo en 1964, où la ville a été refaite pratiquement. Et de nouveau, en 2020, avec la construction de nouvelles installations, un très grand nombre de nouvelles installations. Mais à Paris en 2024, à Los Angeles en 2028, ça ne sera pas le cas. Des installations existantes seront utilisées pour l'essentiel. Par exemple, le stade olympique de Paris 2024, ça sera le stade de France qui a été construit en 1998. Donc un investissement qui a déjà été fait et qui a été exploité depuis, qui sera rénové sans doute, mais qui n'est beaucoup moins lourd et qui n'est aussi pas l'objet de corruption, comme ça peut être le cas au Brésil, ce qui bien sûr fait monter l'addition.
Et d'ailleurs, JO 2024 à Paris, la ville a proposé un budget de seulement entre guillemets 7 milliards d'euros au regard d'autres compétitions, des 13 milliards par exemple de Tokyo, des 12 milliards et quelques de Londres. On a un budget dit modeste. Est-ce que c'est l'amorce, selon vous, d'un changement de modèle, Pim Verskuren?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, le Comité olympique international, lorsqu'il sélectionne les villes hôtes pour les Jeux olympiques, est beaucoup plus attentif à ces questions de raisonnabilité budgétaire. Et je crois que Paris 2024.
Ah, alors on a eu une coupure de. Il y a eu une petite coupure. On vous laisse reprendre, Pim Verskuren.
Pardon. Oui, je disais qu'il y avait eu effectivement des restrictions budgétaires pour le cas de Paris 2024 et qu'il y a aussi la Cour des comptes en France qui surveille la tenue financière de ces Jeux Olympiques. Donc je crois qu'effectivement il y a beaucoup plus d'attentes aujourd'hui envers une raisonnabilité budgétaire de la part de toutes ces villes candidates et organisatrices de grands événements sportifs.
Oui, parce que même si la ville présente un budget plus raisonnable, plus modeste, avec des infrastructures déjà existantes, se pose quand même la question de la rentabilité des Jeux Olympiques. Cette fameuse question de savoir si les JO sont des gouffres financiers ou bien s'ils sont des moteurs de croissance desquels on pourrait attendre une richesse. C'est une question qui n'est pas nouvelle, mais on a l'impression qu'elle se pose de manière plus forte ces dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez et sur cette question-là, qu'est-ce que scientifiquement les études nous disent? Est-ce qu'on sait aujourd'hui si des Jeux Olympiques rapportent de l'argent ou bien plombent les finances publiques?
Non, je pense pas. Je pense qu'il faut regarder, sur le long terme parce que c'est sur le long terme qu'on peut avoir éventuellement des effets économiques. Mais si on organise les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est un peu comme.
Bah, c'est
si
pourtant ce que disent souvent, enfin, pas pour gagner de l'argent, mais en tout cas, au moins pour dynamiser un secteur, le tourisme, le bâtiment, une ville. C'est ce que disent les autorités en général, quand même.
Disons qu'ils vont dire que les efforts qui sont consentis et considérables, bah, il y a aussi des effets économiques qui peuvent arriver derrière. Mais quand on organise une fête à la maison, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour montrer que l'on est moderne, que l'on peut socialiser, que l'on peut inviter plein de personnes chez soi. Et je crois que les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, c'est un peu pareil. C'est un pays qui consent à un effort financier pour se montrer de la meilleure des façons, montrer que l'on est moderne, peut-être accélérer des changements urbains dans la ville qui reçoit les Jeux Olympiques. Mais on fait pas des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde pour gagner de l'argent. C'est pas, je pense que c'est pas in fine, c'est pas le but de l'organisation. Donc, certes, il peut y avoir des petites retombées à court terme, voire à long terme, mais c'est pas l'objectif. Et aujourd'hui, les arguments comme quoi il y a un héritage ou il y a des retombées économiques, bah, je pense qu'ils sont utilisés pour, voilà, comme une sorte de contrepartie aux efforts budgétaires très importants. Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur cette question de la rentabilité économique.
Alors, faut pas se focaliser, mais c'est quand même une question qui revient souvent dans le débat public, notamment pour obtenir l'adhésion de la population au soutien à l'organisation de jeux. Jean-Louis Chapelet, ma question sur la rentabilité des jeux vous a fait rire tout à l'heure. Qu'est-ce que
C'est-à-dire, ce qu'on oublie en général, c'est qu'il y a des recettes très importantes qui viennent de l'extérieur et qui ne viendraient pas si les jeux n'étaient pas organisés dans le territoire. C'est des recettes de sponsoring. C'est des recettes de droits de télévision et c'est des recettes de billets pour les non-résidents. Et ça, c'est des recettes qui arrivent à peu près à équilibrer le budget d'organisation si on laisse de côté la question de la sécurité, qui est une affaire régalienne et qui doit être prise en compte par l'État, en fait. Donc, si on laisse aussi de côté les investissements, ou plus exactement, si on les réduit au maximum, on voit que le budget d'organisation est à peu près équilibré du fait de ces recettes exogènes, comme on dit, qui viennent de l'extérieur du territoire. Alors, bien sûr, ces dépenses qui sont faites dans le territoire avec de l'argent qui vient d'ailleurs, eh bien, elles ont un impact économique, c'est sûr et certain. Quand vous dépensez plusieurs milliards sur un territoire, eh bien, il y a un impact économique avant les Jeux. Après les Jeux, non, c'est très limité. Et puis, de plus, on peut pas démontrer des causalités par rapport aux Jeux parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte sur le même territoire.
Oui, bien sûr.
Il y a aussi les impacts sociaux et les impacts environnementaux dont on peut parler. Mais c'est vrai qu'on se concentre souvent sur l'impact économique. Et comme l'a dit Pierre Churen, ce n'est pas la raison pour laquelle on organise les Jeux.
Alors, on va venir aux autres impacts, notamment environnementaux, mais quelques mots encore notamment sur la question du tourisme. La ville de Londres, par exemple, après les JO d'été 2012, s'était vantée d'avoir dynamisé le tourisme, redynamisé le tourisme dans sa ville. Et puis, on entend souvent les secteurs du tourisme se réjouir de l'arrivée d'une manne de nouveaux visiteurs. Est-ce que là encore, on a des choses probante, parce que Pim Verschuren, vous parliez tout à l'heure d'avoir besoin de temps long et de recul, mais sur les compétitions passées justement, est-ce qu'on a ce recul pour dire, bon, il y a un effet sur le tourisme ou bien non, c'est du discours?
Non, pas réellement. Dans les études scientifiques, on voit pas d'effet réel, tangible sur le tourisme, parce que il y a aussi beaucoup de touristes qui ne vont pas venir dans une ville parce qu'ils vont voir les Jeux Olympiques et qui s'attendent à des complications logistiques, etc.
Mais donc certains visiteurs en remplacent d'autres, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, certains en remplacent d'autres, certains vont reporter. Donc effectivement, il peut y avoir un léger surplus de touristes sur 2-3 ans. Mais bon, c'est vraiment...
Ah, on a perdu à nouveau Pim Verschuren. Alors, peut-être la coupure sera-t-elle plus longue que tout à l'heure. Jean-Louis Chapelet, sur la question du tourisme, quel regard vous portez, vous, sur l'effet JO? Alors, je pense qu'on a retrouvé Pim Verschuren. Pardon, je vais vous laisser finir votre propos. Il y a eu une coupure.
Pardon, oui. Oui, non, je disais que dans certaines villes comme Barcelone en 92, les Jeux Olympiques ont eu lieu dans un cadre de transformation urbaine de la ville. Et aujourd'hui encore, ces Jeux Olympiques sont cités comme un exemple positif de rénovation qui a permis sur le long terme à Barcelone de devenir une des capitales touristiques européennes. Donc il y a des bons exemples aussi en termes d'accueil de JO et d'impact touristique.
Jean-Louis Chapelet, je vous laisse réagir.
Non, moi l'impact touristique, j'ai jamais cru. Il y a un petit effet intermezzo, comme on l'appelle, c'est-à-dire une légère augmentation du tourisme après l'événement. Mais sur le long terme, il n'y a rien. Regardez Paris, Londres, ce sont des capitales qui sont énormément visitées. De toute façon, il y a énormément d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. On prend l'exemple de Barcelone, qui effectivement a vu son nombre de touristes doublé ou quadruplé, peut-être même, au point que d'ailleurs il y en a trop pour les Barcelonais. Mais en fait... beaucoup d'auditeurs, sans doute, sont allés à Barcelone, mais ils ne sont pas allés à Barcelone à cause des Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques peut-être, mais après les Jeux Olympiques, ils sont allés à Barcelone parce que c'est une belle ville, parce qu'il y a de la culture, parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes à voir à Barcelone. Mais ils ne sont pas allés à Barcelone après les Jeux à cause des Jeux.
Alors, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Là, on parle des retombées, qu'elles soient touristiques ou sur la croissance. Et si je vous comprends bien, ces retombées, elles ne doivent pas être surestimées. Si on revient à la question des coûts, et je reprends à nouveau l'exemple des JO et de la Coupe du Monde au Brésil, mais il y a eu aussi Sochi en 2014, qui a battu tous les records en termes de dépenses. Est-ce que vous avez l'impression que quand on prend les chiffres, on voit qu'on a des surcoûts systématiques entre le budget prévu et puis ce qui est finalement dépensé. Peut-être c'est une question naïve, mais pourquoi est-ce que personne ne tire les leçons des dépassements des autres? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à prendre le recul et à améliorer la gouvernance dans la gestion de chaque compétition, Pierre Mbaskuren?
Certains économistes parlent d'une malédiction du vainqueur, à savoir que lorsque vous êtes en lice pour organiser les Jeux Olympiques, et donc il y a une compétition entre villes pour recevoir l'accord du CIO pour organiser des Jeux Olympiques, et forcément pour gagner sur les autres villes candidates, vous allez réduire le budget pour montrer que votre projet va être raisonnable en termes budgétaires. Mais ensuite, donc vous rognez sur toutes les marges et sur toutes les dimensions de votre projet. Mais à terme, il y a forcément un risque que c'est le fait d'avoir rogné, d'avoir réduit le budget, soit confronté à des évolutions, comme j'ai dit, sociétaux, et qui viennent nuire à votre équilibre budgétaire. Donc je crois que il faut avoir cela en tête, ce qui fait que toutes les Olympiades, effectivement, il y a des dépassements budgétaires, parce qu'on a essayé de surenchérir vers le bas, pour proposer le projet le plus raisonnable possible, mais au final, ça colle pas à la réalité.
Et Jean-Louis Chapelet, est-ce que on parle souvent des JO comme des gouffres financiers, est-ce que les Coupes du Monde sont moins déficitaires que les Jeux Olympiques de manière générale?
Non, c'est pareil. C'est à cause des constructions. Au Brésil, par exemple, ils ont construit un stade de 60 000 places à Manaus, alors qu'il y aurait eu besoin d'un stade de 6 000 places, peut-être maximum. Donc c'est les constructions qui causent les dépassements. Et si vous limitez les constructions, voire les réduisez, vous n'avez pas de dépassement. D'ailleurs, il y a un exemple très connu, celui de Los Angeles 1984, qu'ils veulent d'ailleurs reproduire en 2028. Ils ont utilisé que des installations existantes ou temporaires, et ils ont fait un bénéfice de 1984 de 225 millions de dollars. Donc, c'est possible d'organiser les Jeux Olympiques et les grands événements si on utilise des installations existantes. Si vous construisez des installations non existantes, donc si vous les construisez à partir de zéro, eh bien, non seulement vous avez les coûts, mais vous avez des possibles corruptions, et puis ensuite vous avez le coût de fonctionnement pendant 30 ans. Donc un problème important qui a causé effectivement des dépassements budgétaires dans beaucoup d'exemples.
Alors, d'autant que de nouvelles ambitions sont affichées ces dernières années par les villes organisatrices ou les pays organisateurs, des compétitions sobres et surtout respectueuses de l'environnement. Écoutez.
L'esprit olympique s'est développé de plus en plus fort depuis les derniers Jeux de Paris. Paris 2024 se déroulera dans une nouvelle ère, marquée de la responsabilité sociale et durable. 95% des sites seront existants ou temporaires.
Nous supportons vigoureusement l'ambition de neutralité carbone des Jeux, ainsi que la perspective de stimuler l'innovation environnementale, d'inspirer une politique des achats publics exemplaire, et de sensibiliser tous les acteurs et toute la population exposée à ses responsabilités dans la réussite de la transformation écologique de la société.
Voilà, la femme qu'on entendait, c'est Stéphanie Goujon, membre du Conseil économique, social et environnemental, qui siège au sein du Conseil d'administration des JO Paris 2024 et qui appuyait donc je ne sais pas justement si c'est de la communication ou une ambition réelle, et on va essayer d'en discuter, mais donc à la fois d'avoir un budget modeste, on en a déjà parlé, mais en plus d'avoir un modèle de jeu qui soit écologique, en tout cas plus responsable écologiquement que d'autres Jeux Olympiques. Pim Verskuren, comment est-ce que vous voyez cette ambition de Paris? Et Paris est-elle vraiment la première ville à axer fortement son projet sur la question environnementale?
Oui, je suis d'accord. Depuis 20 ans maintenant, toutes les Olympiades font des efforts de plus en plus importants. Et aujourd'hui, Paris 2024 axe beaucoup de ses discours et de réformes.
Alors, on a à nouveau une coupure. Voilà, on vous a retrouvé.
Oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis, mais qui continuent à être consentis. Et effectivement, Paris 2024 va être un des exemples de progrès en termes de respect de l'environnement. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Les Jeux Olympiques en tant que tels et la Coupe du Monde en tant que tels sont des événements qui ne peuvent pas être durables. C'est un peu comme les constructeurs automobiles qui vont dire qu'avec des voitures électriques, on peut répondre au changement climatique, or que l'objectif est de réduire la dépendance à la voiture tout court. Si on accueille 10 000 athlètes, 20 000 staffs, 35 000 journalistes et officiels sur un site de compétition pour quelques jours et que tout le monde, enfin en grande majorité, prend l'avion, même si sur place vous utilisez des gobelets en carton ou que vous dormez dans les lits qui sont en bois recyclable, enfin en matériaux recyclables, forcément vous avez quand même un coût écologique qui est extrêmement important. Donc je crois que c'était le titre de votre émission, qu'il y a quand même un modèle général, structurel des grands événements sportifs qu'il va falloir revoir fondamentalement. Et même si on met en place plein de petites mesures, il va falloir réfléchir à réduire la taille et l'impact structurel de ces événements.
Oui, parce que vous venez de nous expliquer que structurellement, un événement de cette taille-là, avec cette ambition-là, ne peut pas ne pas avoir de coût environnemental. Et donc, quand une ville comme Vancouver, je crois, en 2010, avait annoncé les premiers JO neutres en émissions carbone, on est plus dans l'ordre du vœu pieux que de la réalité. Parce que si je comprends bien, ne serait-ce qu'en termes de transport, on voit pas où peuvent être les marges de manœuvre pour vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre lors de ces compétitions.
Oui, les comités d'organisation font plein d'efforts aujourd'hui, mais sur le site même des Jeux Olympiques. Après, pour la venue de toutes ces personnes sur le site au Canada et à Vancouver, ben là, c'est une autre affaire. Et c'est vrai que le Comité Olympique International ou d'autres n'ont pas vraiment leur mot à dire. Là, c'est les compagnies aériennes, c'est un sujet qui touche la mobilité humaine et qui est beaucoup plus large que le sport en lui-même. Mais c'est vrai que les événements actuels liés à la pandémie nous poussent à réfléchir sur ces grands événements physiques où vous avez des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui se réunissent pour quelques jours sur un site pour faire la fête ou faire des compétitions sportives ou pour un congrès, etc. Donc il va falloir réfléchir à cela parce que ce modèle des grands événements sportifs est hérité du XXe siècle. Et plus on avance dans le XXIe siècle, plus ce modèle est en décalage avec nos besoins sociétaux. Donc forcément, le sport, mais pas que le sport, va devoir réfléchir à ces réformes.
Jean-Louis Chaplet, sur cette question spécifique de l'impact environnemental, vous avez l'impression qu'au sein des instances, alors là je ne parle pas du coup de l'opinion publique, mais au sein des instances organisatrices internationales, il y a une prise de conscience, il y a des travaux qui ont commencé sur ces sujets?
Oui, depuis assez longtemps. La question, c'est est-ce que tout ceci se traduit dans la réalité? C'est sûr que un grand événement ou un événement, de façon générale, sportif ou pas, a un impact environnemental important. La meilleure façon de ne pas avoir d'impact, c'est de ne pas organiser l'événement.
Et d'avoir un événement plus réduit, c'est-à-dire peut-être par exemple des JO régionaux. Et est-ce qu'on se dirige vers plutôt ces modèles-là?
Alors, je suis pas sûr que des JO régionaux seraient intéressants, mais enfin d'ailleurs ils existent, il y a les Jeux continentaux, etc. Mais ce qu'il faut, c'est bien sûr traiter ces questions et, si possible, éviter, limiter et réduire l'impact environnemental dans le secteur sportif comme dans d'autres secteurs, dans tous les secteurs. Et donc, de ce point de vue, il faut que les comités d'organisation prennent des mesures. Alors, bien sûr, des mesures peuvent paraître faibles, comme par exemple des gobelets recyclables, des choses comme ça. Mais c'est l'accumulation de ces mesures qui finalement va permettre d'organiser des événements plus durables.
Oui, mais à côté de ça, alors vous parlez des mesures au moment de l'événement, mais à côté de ça, quand la construction de pistes de ski, par exemple, lors des JO d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud en 2018, ont nécessité la destruction d'une partie d'une forêt qui était une forêt vierge avec des arbres centenaires, ou bien à Sochi également, on a vu de la destruction d'espaces naturels en 2014. est-ce que des constructions écologiquement responsables avec des gobelets en bois, comme vous disiez, va permettre de compenser la destruction qui paraît quand même assez irrémédiable des espaces naturels?
Oui, c'est des erreurs qui ont été commises par ces cojos qui n'auraient jamais dû construire ces installations de la façon dont ils l'ont fait. Je crois qu'aujourd'hui, les architectes, en tout cas chez nous, savent qu'on ne construit plus comme autrefois. On est beaucoup plus sensible à la protection du sol, à l'énergie qui va être utilisée pour faire fonctionner les installations, etc. Donc il y a eu une prise de conscience dans le secteur des installations sportives, mais aussi dans tous les secteurs de la société qu'il fallait être plus durable et plus respectueux de l'environnement. C'est sûr que, encore une fois, le plus simple, bien sûr, c'est de faire des événements plus petits, voire tellement petit qu'il n'existe plus. Mais ça, c'est la contradiction dans les termes. C'est comme si vous dites, on fait un festival ou une conférence ou un congrès et on ne la fait plus. Ça, c'est sûr que à ce moment-là, l'impact environnemental est réduit à zéro.
Mais vous touchez là peut-être le nœud du problème, en tout cas le paradoxe, c'est que si les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde attirent tant de spectateurs et l'attention mondiale, c'est précisément parce qu'ils sont mondiaux. Est-ce que des Jeux plus petits, comme vous l'évoquiez, Pim Verskuren, des compétitions sportives plus modestes continueraient à exercer leur attraction sur le public et donc aussi à équilibrer leur modèle, puisque si ces compétitions très, très gourmandes fonctionnent, c'est bien parce qu'il y a un public derrière.
Oui, c'est vrai. Je crois que ce paradoxe, on le retrouve avec d'autres sujets. On est tous pour les énergies renouvelables, mais on ne veut pas avoir d'éoliennes devant notre maison. Ou avec les centrales nucléaires ou les centres de traitement des déchets nucléaires. C'est un peu un débat classique que l'on peut avoir dans les mouvements sociaux et je crois qu'on l'a dans les Jeux Olympiques. Les Coupes du Monde et les Jeux Olympiques sont de plus en plus populaires, suivis par de plus en plus de personnes, mais il y a des mouvements de contestation de plus en plus forts dans certains pays. Donc effectivement, il va falloir trouver un compromis entre ces deux tendances paradoxales. Je suis entièrement d'accord. Et je crois que la réduction de la taille de l'événement, elle va être un des critères à prendre en compte.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à une compétition sportive en particulier qui concentre toutes les critiques. Je veux parler, bien sûr, de la Coupe du Monde au Qatar 2022.
Plus on va s'approcher du terrain, plus la température va s'abaisser. Bienvenue dans notre bulle climatisée, le stade Al-Wakra. Ici, c'est de l'air à 17 degrés. Et sur la ligne de touche, on approche les 25.
On a réussi à trouver une pelouse parfaite qui nécessite 20% d'eau en moins par rapport à celle qu'on utilisait au départ.
On sait que beaucoup d'ouvriers meurent, mais on ne sait pas combien. On ne sait pas de quoi, car les autorités qatariennes refusent de publier des chiffres et elles ne font pas d'autopsie. Les corps sont mis dans des cercueils et renvoyés dans leur pays. Les familles ne reçoivent ni explication ni compensation, sauf si la mort résulte d'un accident.
On entendait respectivement Saoud Abdul Ghani, le concepteur de la climatisation du stade Al-Wakra au Qatar, puis Yasser Al-Moula du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022, puis enfin Nicolas Magéan, qui est un chercheur spécialiste de la condition des ouvriers au Qatar. Alors on va prendre les choses dans l'ordre, d'un premier point de vue déjà écologique, on en parlait. Le Qatar promet des jeux verts. On parlait tout à l'heure de la difficulté pour des compétitions de ce niveau à ne pas impacter l'environnement. Là, on est dans un pays extrêmement chaud, il va falloir climatiser les stades, une compétition qui a nécessité aussi la construction de 12 nouvelles et rénovation de 12 nouvelles installations. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, pour le dire en bon français, de greenwashing ou d'éco-blanchiment des compétitions de la part des autorités qui organisent?
Oui, moi je pense que c'est beaucoup la communication qui est faite autour de cette Coupe du Monde. Bon, elle a été déplacée au mois de novembre, début décembre aussi, ce qui permet d'avoir des températures quand même beaucoup plus faibles qu'au mois de juin-juillet au Qatar. Mais finalement, ces mesures sont assez dérisoires par rapport au fait que le Qatar a construit, je ne sais plus combien, 7 ou 8 ou 10 stades.
12, je crois.
12, peut-être, et dans un territoire qui est guère plus grand que la Corse. Donc, c'est vraiment quelque chose d'anormal. Et pour revenir à ce qui a été dit précédemment, une façon de réduire la taille des événements, c'est bien sûr de réduire le nombre de spectateurs. parce que des stades à 100 000 places, ça n'a plus lieu d'être. On peut faire des stades beaucoup plus petits avec une ambiance tout aussi bonne. C'est vraiment une voie qui doit être adoptée, d'autant plus que la plupart de ces événements sont vus par des téléspectateurs, pas par des spectateurs. Vous avez regardé les Jeux Olympiques les années précédentes, et bien vous les avez vus à la télévision, probablement vous n'étiez pas sur place.
Pim Verskuren, quand le Qatar promet une Coupe du Monde verte, c'est une annonce qui vous paraît crédible ?
Non, bien sûr, je pense que comme tous les auditeurs, on sourit lorsqu'on entend ces discours, mais c'est les discours de greenwashing que l'on peut voir aussi dans les entreprises ou d'autres comités d'organisation d'événements, donc... C'est classique. Après, s'ils font des efforts, compte tenu des conditions, s'ils font un maximum d'efforts, on peut les applaudir. Mais voilà, là aussi, pour revenir sur le fondamental, la structure de l'événement en tant que tel, comme vous dites, 12 enceintes de plus de 40 000 places construites dans un territoire grand comme la Gironde, qui est peuplé d'uniquement 2 millions de personnes, c'est effectivement un véritable problème en termes d'héritage derrière de ces stades et donc d'impact durable, raisonnable de cet événement, bien sûr.
Alors l'autre grand problème sur cette Coupe du Monde du Qatar, on en parle déjà depuis plusieurs années, ce sont les conditions de travail des ouvriers qui œuvrent à la construction des stades. L'Organisation internationale du travail a déjà dénoncé à de multiples reprises, ainsi que de nombreuses ONG, hein, les conditions de ces travailleurs. Est-ce que, étant donné la mauvaise publicité qui a déjà été faite du Qatar sur ces conditions, est-ce que le Qatar peut encore, à votre avis, tirer les bénéfices de prestige sur la scène internationale qui laisse compter de cette Coupe du Monde, ou est-ce que c'est déjà presque trop tard? Est-ce que cette Coupe est déjà un échec d'un point de vue social et environnemental? Jean-Louis Chapelet, pour commencer.
Non, je disais que le Qatar s'est tiré une balle dans le pied, en quelque sorte, un peu comme Rio, involontairement à Rio. Parce que finalement, il y aura énormément de reportages sur toutes ces dérives ou toutes ces exagérations qui ont eu lieu au Qatar et beaucoup moins de positifs, alors que c'est sans doute ce qu'ils espéraient essentiellement en organisant la Coupe du Monde de football. Pareil au Brésil, où finalement, au moment où l'événement a eu lieu, aussi bien la Coupe du Monde que les JO, eh ben, il y a eu énormément de reportages négatifs sur... le Brésil en général et la ville de Rio en particulier.
Pim Verskuren.
Oui, pardon, j'allais souligner qu'il y a eu une réforme du droit du travail au Qatar l'année dernière qui fait qu'aujourd'hui, a priori en tous les cas, les travailleurs qui participent à la construction des stades et autres installations ont des bien meilleures conditions et que le système de travail clandestin qui avait eu lieu auparavant n'est plus en œuvre aujourd'hui au Qatar. Donc on a une avancée sociale très forte grâce à l'organisation de cette Coupe du Monde. Finalement, on peut avoir des effets aussi positifs qui peuvent être soulignés en ce sens. Et peut-être que le Qatar va engranger d'autres réformes, peut-être politiques, qui pourraient là aussi revaloriser l'image du Qatar à l'international.
Oui, cette réforme à laquelle vous faites allusion, c'est ce système de la kafala qui obligeait effectivement les travailleurs immigrés à avoir un parrainage sur place, et ce système était assez, disons... contraignait leur déplacement et contraignait fortement leur droit sur place. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à un autre fléau menaçant la légitimité des compétitions sportives, le dopage.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Nous sommes heureux d'avoir remporté ce dossier qui fera date. Le drapeau russe ne flottera plus et l'hymne ne sera plus joué. Cela envoie un message clair sur le fait que la tricherie institutionnalisée et la fraude concertée pour tromper le système antidopage international ne sera pas tolérée.
Il y a 15 jours, on apprenait la décision du tribunal arbitral du sport, le TAS, d'exclure la Russie des grandes compétitions sportives pour les deux années à venir. Le drapeau russe sera donc absent des JO de Tokyo 2021 et de Pékin 2022. Le pays est en effet accusé d'avoir manipulé les données du laboratoire antidopage de Moscou afin de dissimuler un programme de dopage à grande échelle sur la période 2011-2015. Alors quelles seront les conséquences de cette décision pour la Russie et que nous dit cette affaire du fonctionnement de la justice du sport au niveau international? Nous accueillons un nouvel invité pour en parler, Lucas Aubin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie et du sport. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. L'Agence mondiale antidopage qu'on entendait dans le petit son que nous venons de diffuser, c'est donc félicitée d'une décision qui, selon elle, fera date. Et pourtant, cette exclusion de la Russie pour 2 ans est bien inférieure aux 4 années demandées par cette même Agence mondiale antidopage. Alors, derrière cette décision présentée comme historique, est-ce qu'en fait c'est pas un peu une sanction en demi-teinte pour la Russie?
Ça révèle plusieurs problèmes en réalité. D'une part, en fait, on remarque que les institutions de lutte contre le dopage à l'échelle internationale fonctionnent à plusieurs vitesses en même temps, c'est-à-dire qu'on a l'Agence mondiale antidopage qui donne une décision il y a un an et qui est finalement retoquée un an plus tard par le tribunal arbitral du sport qui minimise cette décision en la réduisant de 4 à 2 ans. Donc déjà, il y a évidemment ça. Et la Russie, elle, de toute façon, de son côté, a des difficultés à reconnaître l'Agence mondiale antidopage, qui est, selon elle, financée en grande partie par les États-Unis et qui, du coup, sert en grande partie ses intérêts. De ce point de vue, la décision du TAS apparaît finalement presque positive pour les autorités russes, qui l'ont en partie saluée, dans le sens où, en fait, c'est un nouveau désaveu pour l'Agence mondiale antidopage. Néanmoins, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que si la Russie est réellement exclue de plusieurs grandes compétitions sportives pour les 2 prochaines années, la réalité est que les athlètes qui n'ont pas été dopés par le passé et qui ne le sont évidemment pas actuellement pourront y participer, évidemment, sous bannière neutre.
Oui, le tribunal arbitral du sport a effectivement tenu à faire cette distinction qui est très importante entre les athlètes et le comité olympique russe. Donc les athlètes, vous le disiez, pourront participer sous bannière neutre. Mais néanmoins, pour la Russie en tant que nation, l'hymne ne sera pas chanté, le drapeau ne flottera pas. Est-ce que c'est pas quand même un sérieux coup porté au prestige russe en matière de sport?
Oui, bien sûr. C'est un coup porté dans le sens où le pouvoir russe a mis en place tout un système politico-économico-sportif très développé et très performant finalement depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000. Donc évidemment, le fait de ne pas pouvoir finalement montrer sous toute sa splendeur, entre guillemets, le sport russe durant les 2 prochaines années va être difficile. En revanche, pour bien connaître les autorités russes face à ces situations-là, il faut s'attendre à des réactions politiques, à des techniques de marketing qui vont finalement utiliser cette décision pour la retourner en fait en la faveur des Russes. Et actuellement, les autorités russes réfléchissent à remplacer l'hymne par une chanson traditionnelle russe qui finalement rappellerait bien entendu au-delà des couleurs le pays et pourrait faire un gros coup de com' finalement. Donc ça, c'est une des possibilités à voir, évidemment, si le tribunal arbitral du sport, le comité international olympique, etc., seront d'accord. Mais pour le moment, c'est une des pistes envisagées.
Le tribunal arbitral du sport a aussi assorti sa décision d'une interdiction pour les officiels russes et pour Vladimir Poutine d'assister aux prochains JO, ces 2 prochaines années. Quel est le sens de cette interdiction? Est-ce qu'il faut le voir comme une punition symbolique?
Oui, tout à fait. Et plus qu'une punition symbolique, c'est aussi une volonté, je crois, de dépolitiser le sport. En fait, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup d'États, en fait, utilisent le sport à des fins politiques pour montrer la bien-portance de tel régime, pour montrer le bon fonctionnement d'un tel ou d'un tel, etc., etc. Donc, le fait que Vladimir Poutine ne puisse pas finalement assister à ces grandes compétitions va lui empêcher de politiser l'événement et de potentiellement le retourner en sa faveur durant l'événement. Donc oui, c'est un camouflé, surtout quand on regarde en fait la façon, par exemple, dont se sont déroulés les JO de Sochi 2014, où on a vu un Vladimir Poutine, par exemple, à l'époque très présent, qui utilisait l'événement pour pouvoir parler avec ses homologues occidentaux, mais pas uniquement. On se souvient notamment qu'il avait par exemple, utiliser l'événement pour essayer de renouer des liens diplomatiques avec la Géorgie, etc., etc. Donc, bien entendu, c'est une arme diplomatique en moins pour le pouvoir russe durant les deux prochaines années.
Mmh. Et si on revient à la raison de cette condamnation de la Russie, donc exclusion pour 2 ans des grandes compétitions mondiales, l'Agence mondiale antidopage avait parlé dans un rapport publié en 2016 de dopage institutionnalisé en Russie entre 2011 et 2015. Qu'est-ce que ça signifie un dopage institutionnalisé ? Est-ce que ça veut dire que c'était un dopage couvert par les autorités ou bien un dopage organisé par les autorités ? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui avec un peu de recul de cette réalité du dopage sur les athlètes russes ?
Alors ça, c'est une grande question parce que évidemment, ça se saurait. Vladimir Poutine, par exemple, pour parler du président russe, n'est pas officiellement mis en cause dans cette question du dopage. En revanche, son ministre des Sports de l'époque, Vitali Mutko, lui, l'est directement. Donc, quand on dit dopage institutionnalisé, c'est-à-dire que potentiellement, Vitali Mutko aurait ordonné, décidé d'un dopage à l'échelle nationale pour pouvoir faire du sport un élément encore plus puissant, si vous voulez. Mais quand on regarde les dossiers, on se rend compte que finalement, les preuves à cet égard ne sont pas si claires que ça, et il est difficile, en fait, de remettre officiellement en cause ces personnalités-là, tout simplement parce qu'en fait, le système russe est très opaque, et que l'Agence mondiale antidopage n'a pas eu accès, comme elle le voulait, en fait, si vous voulez, au lieu, en fait, de dopage supputé, si vous voulez. Ils n'ont pas pu aller en Russie comme ils le souhaitaient. Les autorités russes et le FSB l'ont refusé fréquemment. Donc, il y a eu un manque de coopération. Par contre, ce qu'on peut dire, et ce dont on a la certitude, c'est que le pouvoir russe actuel est l'héritier direct du système politico-économico-sportif soviétique, qui, lui, avait utilisé effectivement les techniques de dopage très poussées dans les années 70 et 80, et que si les années 1990 apparaissent en fait comme un espèce de vide interstidéral pour les sportifs et le sport russe, parce que, en d'autres termes, ils avaient d'autres choses à fouetter, dans le sens où la Russie était confrontée à une grave crise économique, Vladimir Poutine, lui, en 2000, quand il arrive au pouvoir, il est l'héritier de ce système soviétique. Et donc, il réutilise finalement certains modes de fonctionnement adaptés au libéralisme et à l'économie de marché. Et donc, on peut voir et se penser, en fait, finalement, c'est l'utilisation des oligarques à des fins sportives, l'utilisation du patriotisme auprès des sportifs pour leur imposer, finalement, une réussite sportive à tout prix. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y a pas un dopage institutionnalisé, en tout cas, il y a un dopage systémique. C'est-à-dire que le réflexe du dopage peut paraître comme logique pour présenter le monde, la Russie au monde de manière puissante, etc.
Alors restez avec nous, Lucas Aubin. J'aimerais faire réagir nos deux invités, Jean-Louis Chaplet, Pim Verskuren, pour commencer peut-être à cette question du dopage en Russie.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que les organisations sportives internationales, comme ce sont des organisations privées, elles ont du mal à aller sanctionner des officiels, des hommes d'État, avec qui elles n'ont aucun rapport contractuel direct. Donc vous pouvez interdire éventuellement aux hommes d'État d'accéder au site des compétitions, mais c'est tout. Donc je crois qu'il faut aussi comprendre cette décision comme une sorte de compromis, et puis du fait que, effectivement, ces organisations, ces fédérations, les comités olympiques internationaux ne peuvent pas vraiment sanctionner les gens qui ne sont pas directement reliés au sport.
Vous voulez dire que le tribunal, que ce soit les instances comme le tribunal arbitral sportif ou bien l'Agence mondiale antidopage ne sont quoi, pas assez puissantes encore et peut-être ne pourront-elles pas l'être plus, ou ne sont pas assez légitimement reconnues par toutes les nations pour pouvoir véritablement sanctionner le dopage et d'autres affaires aussi, hein, parce que le tribunal arbitral sportif gère aussi d'autres affaires. C'est ça que vous voulez dire, Pim Verskuren ?
Oui, c'est pas tellement une question de légitimité, c'est une question de droit privé. On n'est pas dans du droit public où vous auriez la police qui viendrait. Là, on est vraiment dans un cadre privé, des associations, souvent de droit suisse, qui ont un régime, un code disciplinaire sportif. Et le tribunal arbitral, c'est un tribunal arbitral entre deux parties qui se lient contractuellement pour régler un litige. Donc, on n'est pas dans des prérogatives de puissance publique. Et donc, ces fédérations, ces associations, comme des associations locales, peuvent uniquement interdire l'accès des participants aux compétitions, mais elles peuvent pas mettre des gens en prison ou même placer des amendes. C'est très compliqué. Donc C'est pour ça que finalement leur pouvoir de sanction était limité.
Fin novembre, le Sénat américain a promulgué une nouvelle loi qui s'appelle le Rodchenkov Act, qui devrait permettre à la justice américaine de poursuivre hors de ses frontières toute personne soupçonnée de participation ou d'organisation au dopage. Est-ce qu'il faut voir l'arrivée de cette loi justement comme un désaveu des instances internationales sur les questions de dopage, et est-ce qu'avec cette loi on va avoir d'une part plus de fermeté sur les questions de dopage, mais aussi un risque de politisation et d'utilisation du sport comme pour continuer l'affrontement entre grandes puissances, notamment entre les États-Unis et la Russie, Lucas Aubin?
Ah ben, oui, de politisation du sport, évidemment, ne serait-ce que par le nom déjà, en fait. Rodchenkov, évidemment, c'est le lanceur d'alerte russe qui a révélé, en fait, le système de dopage actuel, entre autres avec le couple Vitali et Yulia Stepanov. C'est-à-dire que...
Et qui sont réfugiés aux États-Unis, pardon, pour compléter la...
Tout à fait. Et en fait, ce qu'on peut dire de ça, c'est que les autorités américaines, l'ont dit d'ailleurs régulièrement, qu'elles n'étaient pas contentes finalement de la façon dont était gérée la lutte antidopage à l'échelle mondiale par l'Agence mondiale antidopage et par le tribunal arbitral du sport. Du coup, elles ont réagi, ces autorités, comme les États-Unis le font assez régulièrement finalement ces dernières années, en disant... On va privilégier finalement l'unilatéralisme au multilatéralisme. On va s'occuper nous-mêmes de ces affaires-là à l'échelle internationale. Et comme ça, on sera en fait finalement jamais mieux servi que par soi-même. La réalité, c'est aussi que les États-Unis financent en grande partie l'Agence mondiale antidopage depuis des années, et que le fait que les décisions prises par cette agence ne soient pas respectées la plupart du temps ont conduit les États-Unis à décider effectivement de prendre le taureau par les cornes. Et pour continuer dans ce sens, les autorités russes, elles, ne comptent pas respecter les décisions prises par le Rodchenkov Act, parce que, bien entendu, elles sont jugées en fait comme des cas d'ingérence, elles seraient potentiellement jugées comme des cas d'ingérence diplomatique, et on imagine évidemment très mal les autorités russes accepter par exemple une décision de la justice américaine contre la Russie. Et il faut essayer de renverser d'ailleurs la situation pour la comprendre. C'est comme si finalement la Russie promulguait une loi qui s'appellerait le Lance Armstrong Act, ou la loi Lance Armstrong, en disant voilà, bon, les États-Unis, ça fait des années qu'ils se dopent de manière massive, maintenant on va régler le problème par nous-mêmes. Donc oui, je pense qu'on a affaire finalement à ce qu'on pourrait appeler une nouvelle guerre froide du sport, qui ne se joue pas finalement sur le terrain sportif d'abord, mais plutôt sur le terrain juridique. Et pour aller au bout d'ailleurs de cette question du Rodchenkov Act, il faut bien prévoir qu'il fonctionnera uniquement si les États-Unis participent à la compétition sportive en question. C'est ça la condition sine qua non, si vous voulez. Donc ça ne peut pas fonctionner à l'échelle internationale. Par exemple, lors d'une Coupe du Monde de football où les États-Unis ne participent pas tout le temps, les États-Unis pourraient ne pas avoir le droit de statuer.
Voilà, on se quitte sur ce titre, la gymnastique de Stéréo Total. Merci beaucoup à nos invités. Merci Lucas Aubin, vous interveniez sur la Russie et les questions de dopage. Je rappelle, chercheur en géopolitique à l'université Paris-Nanterre. Merci à vous Jean-Loup Chaplet, Pim Verskuren, de nous avoir éclairés sur ces questions de l'avenir des grandes compétitions sportives internationales, Jeux Olympiques, Coupe du Monde. Je rappelle Jean-Loup Chaplet, professeur émérite à l'université de Lausanne. Pim Verskuren, chercheur également à l'université de Lausanne. Rendez-vous, nous, eh bien, demain pour parler de football. Nous reviendrons sur la crise économique que traverse le secteur. Mais dans un instant, c'est la grande table, présentée cette semaine par Maëlys Besserie.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.